1921, la veille du 1er janvier. Ce furent deux semaines splendides que celles-ci. Il faut les garder, délicieuses, dans la mémoire que l'on ne visite qu'au printemps, jusqu'à l'automne, qu'importe. Vous m'avez appris mon amour-amour, Paul Valéry. Vous m'avez appris mon amour-amour, vous avez fait que je connaisse cette musique moi-même, qui chante du corps à l'esprit, et que tout le vrai de ce que je suis exprime. Qu'importe, vous m'avez permis d'être sincère. Quoi de la vie sans vous m'eût demandé cette tendresse inconnue, enfermée? Quelle heure aurait permis cette grâce, ce courage? Qu'importe, amour sans courage. Hier, je suis revenue en chantant. Vraiment, je chantais dans le soir, et les passants me pensaient mal élevée. Vous aviez dit que vous songiez à me donner tous les cahiers, notes. Paul Valéry, qui avait tenté une première mise en ordre de ses cahiers en 1908, songeait de nouveau à les classer. Mais pour cet immense travail, il souhaitait de l'aide et un regard extérieur. Catherine Pozzi sera donc la première d'une longue suite de secrétaires à travailler avec Paul Valéry sur ses textes. Ses 261 cahiers, sur lesquels il écrivit quotidiennement entre 4 et 7 heures du matin, de 1894 à sa mort en 1945, ont été édités en deux volumes de textes regroupés par thème dans la collection La Pléiade, édition Gallimard, 1973 et 1974, et en 29 volumes reproduits en fac-similé, mais non pas en totalité, par les éditions du CNRS entre 1957 et 1961. Vous aviez dit que vous songiez à me donner tous les cahiers. Donnez. Rien de vos lettres ni de vos yeux ne m'avait appris, fait croire ainsi que je n'étais pas une femme, sinon l'extrême de vous. Hier s'est endormi dans le calme. Aujourd'hui se réveille sinistre, épuisé. Catherine, il t'a appelé Catherine deux fois. Et il paraît que tu disais de belles choses. Catherine, tu écris gai. Et tu es si seule. Leonardo me tenait dans ses bras et j'ai prié. Prié parce qu'enfin, je meurs, fin juin. J'ai prié. Tu n'aimeras pas d'autres femmes quand je serai bête comme n'importe qui. Et il répondait, jamais, mon chéri. Comment veux-tu que je retrouve? Je ne pourrai avoir que des aventures. C'est une histoire pauvre, plutôt une histoire pour pauvre. Cathy Gilou, à laquelle on avait changé son collier de perles, qui va chez Cartier, montre le toc qu'elle portait à la place, confiante, et elle demande « Combien cela vaut-il » avec l'orgueil qu'il faut. À qui l'on répond « 4,50 francs ». Carine Pozzi, qui porte l'absolu étincelant et dur sous une chemise aurore et qui le serre en souriant contre soi et s'assure qu'il est indéfectible, scellé sur ce cœur rose à jamais, et puis apprend qu'un jour le portera un cœur bleu. Ce n'est pas la même chose, clame le cœur des mâles, M, A, accent grave, L, E, S, avec un M majuscule. Clame le cœur des mâles par tous ses romanciers. Leonardo, vous avez votre femme, s'il vous en faut une quand je serai morte, pour la terrible viridité. Vous n'auriez jamais eu qu'elle si je n'étais pas passée dans le jardin. Mais cette joie que je vous ai fait comprendre, vous ne voulez pas la sacrifier, moi lointaine, à la beauté d'une image. Quel mépris il y a donc en vous, monsieur Dès la tête! Surnom que Catherine Pozzi donne à Paul Valéry par allusion à la soirée avec monsieur Test. Votre vie même, vous ne vous souciez pas de la construire? L'on n'y traverse les propylées que pour accéder à la foire de Neuilly. 9 heures, même soir. Vous parlerai-je encore, homme de ma vie? Je suis donc un être insensé pour vous? D'autres écrivent de petites histoires ou s'en racontent. Agir la mienne était plus beau. Cela m'intéressait seul. Depuis que j'étais enfant, elle a eu commencement, milieu, fin. Je vois bien les gens autour de moi n'avoir d'haleine que pour la manière nouvelle et coudre leur recueil de 150 commencements interrompus. Mais je me sentais solide à ne présenter qu'un destin. Il m'a donné la joie, il m'a donné la mort. Et puis, il m'a dit, guillemets, « Je ne pourrais t'oublier. Après toi, personne. Après toi, seulement la baronne. » Note, la baronne de Brimont. « Après toi, seulement la baronne. Tu sais qu'elle ne me plaît pas. Ce sera sans goût, pure consolation. Après toi, je ne sais pas. Mais en tout cas, le fond n'y sera pas. » Fin de guillemets. Monsieur B, Édouard Bourdet, veut que je reparte jeudi. Tout l'hiver, le printemps, qui m'aidera? Qui t'a aidé? Il faut s'en aller sans rien. Le ciel n'a plus de haut ni bas et l'étoile fidélité ne cligne pas comme une larme qui fait espoir. S'en aller et c'est salement noir. Il est 10 heures. Depuis 5 ans à cette date-ci, j'écris les mêmes mots. Note. Catherine Pozzi, qui récapitule presque toujours le nombre de ses prières à André du premier jour de l'année, oublie qu'elle lui avait déjà écrit ainsi en janvier 1916, avant qu'il ne meure. Elle ne fait donc son calcul qu'à partir de la prière du 1er janvier 1917. Il est 10 heures. Depuis 5 ans, à cette date-ci, j'écris les mêmes mots. Non, demain matin. Je les écrirai demain, malgré tout. 1er janvier 1921, le lendemain. Ma force, André. Que mon âme soit semblable à vous dans l'éternité. À travers vous, je vais vers Dieu. À cause de vous, j'exige de moi ma difficile réalité. Nous nous retrouverons, sans doute il le faut, dans un soleil qui n'est point encore et que nous aidons à créer par la peine infinie et la volonté d'une constance qui ne connaît pas et pourtant trouve. Mardi 11 janvier 1921 plus 10 jours. Depuis 3 jours, je ne puis me décider à vous voir. Il est difficile de lire ses propres motifs malgré la grande habitude d'errer, intrus, phares au point, P-H-A-R-E-S, phares au point, samedi, guillemets. Ce bleu si molle, si cher, cette intimité, cette chambre haute, note. La chambre haute désigne, dans l'appartement de sa mère où vit Catherine Pozzi, la pièce inoccupée de son frère cadet Jacques, où finalement elle accepte de recevoir Paul Valéry. Reprise, samedi, guillemets. Ce bleu si molle, si cher, cette intimité, cette chambre haute, toi et moi, rien de plus. Et tout se passe comme si nous nous suffisions ineffablement. Fin de guillemets. Et puis, tout se passe comme si rien n'avait eu lieu. Essayons de voir de quoi chaque phrase est faite. Samedi, le léger bonheur de soi, S-O-I-E, de soi et d'âme, à vos pieds, vous regarde l'esprit, s'y tient serré. La solitude sans solitude, vous dit-elle, mais vous partez. Mais elle comprend que c'est pour chez loi, Madame Mulfeld, L-O-I-E. Elle ne discute plus, elle ne dit plus vous, là. Vous avoir presque quitté 2 fois pour cette raison, n'a pu vous y faire croire. Elle rit, elle dit « Pauvre, pauvre, vous partez, croyant que rien n'a eu lieu. » Elle va goûter chez Alévi, puis chez Bonheur des Dames, note. Bonheur des Dames, surnom que donne Catherine Pozzi à Nathalie Clifford Barnet, originaire de l'Ohio, cette américaine de Paris, défrayait la chronique mondaine par ses amours lesbiennes. Liane de Pougy, René Vivien, Lucie de la rue Mardrus, Romaine Brooks, etc. Très riche, elle organisait fêtes et bals masqués dans son hôtel particulier de Neuilly, puis de la rue Jacob, dont le jardin était orné d'un temple de l'amitié. En octobre 1920, Paul Valéry avait demandé à Nathalie Clifford Barnet d'envoyer à Catherine Pozzi, alors à Montpellier, ses « Pensées d'une Amazone », édition Émile Paul, 1918, avec la mention « De la part de Monsieur Test ». Reprise. Elle va goûter chez Alévi, puis chez Bonheur des Dames, qu'elle trouve au lit, tiède d'une brune qui s'enfuit par une autre porte, restée 10 minutes assise de travers, crainte des événements, le temps de se faire inviter à dîner avec Mardrus, note. Joseph Mardrus, 1868-1949, qui, depuis 1914, vivait séparé de sa femme, la poétesse et romancière Lucie de la rue Mardrus, 1880-1945, la belle princesse Amande, était médecin et orientaliste. Il a réalisé la première traduction d'ensemble des contes des Mille et une nuits qui furent publiés petit à petit dès 1914. Reprise, le temps de se faire inviter à dîner avec Mardrus et vous, puisque vous y tenez. Visite Pierrebourg, note. La baronne Emery Arty de Pierrebourg, 1856-1943, née Marguerite Thomas Galine, ancienne égérie du défunt Paul Hervieux, tenait un salon où Catherine Pozzi pouvait retrouver la plupart de ses relations, dont Abel Bonnard, Jean-Louis Vaudoyer et Marie de Régnier. Elle avait patronné Madame Bulteau à ses débuts, mais celle-ci était devenue sa rivale directe. Madame de Pierrebourg peignait, avait exposé au Salon et écrivait sous le nom de Claude Ferval. Le livre sur lequel elle travaille alors est « La vie et la mort de Cléopâtre », édition Artem Fayard, 1922, reprise. Visite Pierrebourg, qui invente Cléopâtre avec deux livres d'histoire et ses propres souvenirs, dîner chez maman, qui me donne un paquet de vieilles lettres, lettres de jeunesse, le soir, avant de dormir, les lire un peu, voici l'écriture de Mam, note de la lectrice, la grand-mère, décédée. Qu'elle est pure et sage, qu'elle est fine et simple, comme cette fragile vie coule droit. Le lendemain, extrême fatigue, sensation qu'il va falloir être seul pendant que vous parlerez, rue G.V. Note 3 rue Georgesville, chez Madame Mulfeld. Détachement total de vous. Vous téléphonez que nous ne nous verrons pas l'après-midi, que je suis lasse, lasse d'avance, à mort. Vous répondez « Au revoir, flemmarde ». Lundi, de nouveau, refus par téléphone. Parce que fatigué, je demeure étendu à penser, à ne pas penser. Mais mardi, nous ne pouvons cependant pas continuer à nous manquer par ma faute et sans explication. En vérité, je ne sais plus si je vous aime. Mais vous pleurez, il faut bien que ce soit mon petit frère dans mes bras. Vendredi 14 janvier 1921. Plus 3 jours. Aujourd'hui encore, l'autre chambre. Ce qui se passe en moi est incompréhensible. En me quittant, il allait rue G.V. et ça m'était égal. Ce soir, il ne me téléphone pas et cela m'est égal. Mon indifférence m'emplit comme une fatigue affreuse. 15 janvier 1921, le lendemain. Ah, c'est si je ne vous aime plus qu'il me faut un fils de vous. Note. Catherine Pozzi croit être enceinte de Paul Valéry depuis octobre-novembre 1920. L'affaire reste confuse, mais il semble qu'elle ait plutôt souffert d'une anémie généralisée, ce qu'elle ne soupçonnera qu'en mars suivant. Qu'il me faut un fils de vous, afin qu'au moins, au moins, cela n'ait pas été une aventure. Ce samedi 15 janvier, ici, dans la pièce aux trois fenêtres hautes, devant le Paris des riches, temps sec, il me semblait. 2 heures de mathématiques sentimentales, ensemble, à poser l'équation du présent néant. N'est-elle pas belle aussi la fraternelle tendresse qui permet cela? Chers semblables qui m'êtes si proches, si vous ne m'aimiez plus, je vous posséderai encore par le délassement de la sincérité. Je vous disais qu'il peut se former un coagulum d'idées tel que celui qui, dans l'air où des poussières sont suspendues, si la tension change, donne une goutte d'eau. Ici, la pluie ne serait pas sans l'atome errant qui la supporte. En moi, j'entrevois le point de force, une pensée qui va faire centre suffisant, qui sera soutien, appel aux pensées de système analogue, sera le grain de poussière collecteur. Et l'orage s'amasse contre vous, sur cet instant frêle. Mais vous me répondiez que le très grand amour peut contrevenir aux lois de la physique, et justement, malgré Carnot, renverser l'ordre des faits naturels. Ainsi, nous étions à deux contre nous-mêmes, et, les mains dans les mains, pensant jusqu'à comprendre pourquoi la grâce avait fui. N'aviez-vous pas, aux mêmes heures, senti la même faim en vous? Vous n'étiez plus sûr de l'amour samedi à 3 heures, et dimanche, nous tâchions encore de comprendre les étranges jours précédents, et nous nous quittions frères à cause de la franchise. Mais ce soir, c'est ce soir que vous découvrez l'amour, Leonardo, l'amour plus grave et plus entier que cette flamme que vous avez apprise. Et je sais enfin que c'est de ce soir que je vous ai sans retour, de ce soir qu'il n'est plus d'être inquiète, plus de prier, de se reprendre, de douter de l'avenir. Vous êtes à moi avec mes paroles mêmes et mon anxiété, avec l'oubli de vous que j'eus pour moi-même, avec la tragique certitude que vous touchez à votre absolu. Et moi, je ne me sais pas ce soir. Les choses qui m'ont fait me reprendre sont irréelles devant le don splendide que je reçois. Irréel en tant qu'opposé à cette vie tellement supérieure que nous pouvons former à deux, mais réel en tant que diminuant votre corps et sa santé, votre liberté et ses mépris, votre solitude et son orgueil, cette famille à qui vous devez tout pour avoir 20 ans. Note. Paul Valéry s'était marié 20 ans auparavant, le 31 mai 1900. Pour avoir 20 ans laissé croire que vous lui deviez tout, jusqu'au compte par minute de vos 24 heures, et que vous volez, pour moi, du bien qui seul m'appartienne et que je ne puis posséder. Cette fatigue, la vôtre, qu'il faut que je partage quand je suis si fatiguée, et que la rielle des vents serait souhaitable pour me chanter ce qui est libre et ce qui danse. Le salon trop jaune, note. Le salon de Madame Mulfeld, décoré par son beau-frère, le dessinateur Capiello, était de tonalité jaune. Le salon trop jaune, où vous trônez avec, à gauche, des esprits sentant l'encre, l'envie et le néant, à droite, couchée mais explosive, une vanité minérale, note. Madame Mulfeld recevait ses invités couchés sur des fourrures blanches. Pourtant, vous m'êtes donné don sans retour. Comment vous refuserais-je? Je vous accepte. Que Dieu vous enseigne un peu afin que de ceci advienne un paradis. Mercredi 19 janvier 1921, rappel de la lectrice. C'est l'initiative de la lectrice que de rappeler plus 2 jours, plus 3 jours, plus 4 jours. Reprise. Il y a exactement une semaine, mardi passé, à 4h moins le quart, vous et moi, nous étions dans notre maison. Et vous étiez à mes genoux et vous pleuriez, dur visage, parce que j'avais pendant 2 jours refusé de vous voir, pour la seule raison qui nous sépare, note, la fréquentation quotidienne du salon de Madame Mulfeld. Vous m'avez dit, veux-tu que je n'y aille jamais plus? Et comme je refusais, du moins je te jure d'espacer. Ainsi que l'on se défait du tabac, peu à peu se déprendre du fort encens qu'une main grasse balance au pied de ton pénate. Long serment d'analyste, un courant nerveux vous emporte, une idée, un bonjour, un devoir, un espoir. Ni mardi, le jour du renoncement, ni mercredi vous n'y fûtes, mais jeudi, bref, ou case du temple jaune. et le service reprit, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Dimanche, je vous y trouvais. Noailles était là. Jaloux, note. Edmond Jaloux, 1878-1949, romancier et critique littéraire très libéral, très ouvert aux littératures étrangères, tiendra l'importante rubrique « L'esprit des livres » dans « Les nouvelles littéraires ». Il était aussi directeur de « La revue européenne ». Il fut élu à l'Académie française en 1936. Reprise. Noailles était là, jaloux. Que sa femme est belle. Magalon, note. Le poète Xavier de Magalon était membre de « La Pléiade », association qui réunissait des poètes comme Camus, De Rennes, Gasquet, Mazade, Valéry, appartenant au classicisme méditerranéen. Deux anthologies de La Pléiade ont été publiées en 1921 et 1928. Magalon, Dubos, note, Charles Dubos, 1883-1939, élève de Bergson, grand connaisseur de langues et de cultures étrangères, fut un des proches du groupe de la NRF. Il exerça ses talents de critique littéraire aussi bien sur ses contemporains, Gide, Mauriac, que sur les écrivains du passé, Constant, Goethe, Tolstoï, Byron, Maurice de Guérin, ce qui fit la matière de plusieurs biographies et de ses 7 volumes d'approximation. C'est sur le conseil de l'abbé Munier qu'il commença à tenir son journal, précisément en 1921. Catherine Pozzi le rencontra d'abord vers 1909-1910, mais ne le fréquenta régulièrement qu'à partir de 1928. Reprise, Dubos, Gasquet, note, Joachim Gasquet, membre de La Pléiade, Rivière, etc. Je ne vous ai qu'à peine dit adieu en partant, car je vous déteste en ce temple. Y passeriez-vous un jour sur 6, comme les autres? Mais être là, en service obligé, mi-dieu, mi-laquais, dispenser le plus clair de notre univers à ces fantômes, accepter leur dégoûtant hommage. Hier au soir, du moins, il n'ira pas, non pas après cette petite lettre. Vous avez dû y aller dans l'heure même, tout chaud d'un désespoir de moi. Jeudi 20 janvier 1921, le lendemain. Comme je rentrais, la concierge me remet la petite lettre télégramme et, dans la même enveloppe, l'essai note de physique mat. J'y réponds le soir, rue de Longchamp, après dîner, non point comme vous aimez que j'écrive. Mercredi matin, téléphone. Vous êtes exaspéré par le style de la veille que vous venez de recevoir. Et puis, dites-vous, vous ne croyez pas à mes raisons, ni à ma peine qui vous reproche, ni à l'importance de cette histoire Tizi. Note, Madame Mulfeld. D'où re-style. Et 4 pages que je porte chez vous en passant. Il était 12h30 quand je suis passé. Vous rentriez. Quand vous avez vu la voiture, vous vous êtes pris à courir. Mon chéri, vous avanciez avec cette grâce que vous avez parfois. Et comme vous n'aviez pas le hideux par-dessus ni le chapeau, vous sembliez jeune, jeune. Vous êtes monté un instant près de moi, vous avez dit « Je crève d'une tendresse qui devient poison. » Et ce visage était celui de mon bien-aimé, tellement au jour du jardin de septembre, que rien de moi n'était qui ne soit votre domaine. Aujourd'hui, Giraudoux, note, Jean Giraudoux, 1882-1944, était alors diplomate aux affaires étrangères et très lié, d'une part avec Jean Pozzi, qui faisait carrière au Quai d'Orsay, et d'autre part avec Édouard Bourdet et Paul Morand, avec lesquels il jouait régulièrement au poker. Dans les premières années du siècle, il avait fait partie du mouvement des jeunes écrivains, réunis autour de la revue Les Essais, avec Catherine Pozzi, Bonnard, Crupy, Epp. Il avait publié des nouvelles, puis des romans, Suzanne et le Pacifique, édition Émile Paul, 1921, avant de se lancer dans l'écriture théâtrale. Reprise. Aujourd'hui, Giraudoux m'envoie le sleeping que j'avais demandé sans crainte de l'obtenir. Vendredi 21 janvier 1921. Le lendemain. Chez nous. La dernière fois. Nous nous retrouvons, presque camarades. Après ces 2 semaines affreuses, l'amitié n'a pas changé. Et c'est de l'amitié plus que de l'amour. que nous nous serrons dans les bras l'un de l'autre. Mais pourquoi ne m'appelez-vous pas pour me parler ce soir? Il est 10 heures. Vous allez me laisser m'endormir sans vous. Je pars demain, j'ai fini mes rangements dans une âme de fin du monde, et je sais bien que c'est une des âmes qui finit ici, dans une chambre haute et tiède, absolument silencieuse. Le silence des puissants de ce monde, devant la venue claire et nette, où j'ai goûté ces heures étranges, toute douceur, toute lassitude, toute crainte, toute horreur, et, contre vos genoux appuyés lorsqu'en ces après-midi vous y montiez pour une heure, ce qui s'appelle l'amour. Montpellier, 30 janvier 1921, dimanche soir, plus 9 jours. Je suis ici depuis 8 jours. Il m'écrit tous les jours, je lui réponds presque tous les jours. Il faisait blanc et or par tout le ciel à mon arrivée. Retrouver mes appartements et mes livres, avec le soupir du voyageur accueilli. Retrouver le silence et la liberté. Le magistère est venu avant-hier, il sait tout. Je le lui avais dit en octobre, peut-être qu'il m'aime encore. Il me l'a dit sans le dire, il était là, si fort, si vrai, calme comme la fidélité. Je lui ai pris la main, je savais que c'était mal, une telle douceur me venait de sa présence. Portrait Dessum, note, qui signifie « je manque » en latin, nouveau où je suis absent, nouveau surnom que Catherine Pozzi donne à Paul Valéry, dont elle retrace ici la vie à grands traits. Elle l'appelle aussi « Absum », « suis absent ». On trouve à cette même époque, dans les cahiers de Valéry, une réflexion à ce sujet. « Inhumain que tu es !» Gide disait ce soir, devant moi, « Valéry n'est pas humain. Il y a un accord sur ce point. Degas m'appelait l'ange. Karine me définit l'absent. » Fin de guillemets. Cahier, 1920-1921, édition Gallimard. Reprise, portrait, Dessum. Quelle peut être l'origine de son absence? Son esthétisme blessé dès l'origine. Le lait en face de ses yeux faits pour la beauté? Ensuite, l'inajustement du réel au rêve, affaire de la jeune fille. Il faudrait longuement approfondir ces deux causes combinées ici. Leonardo, enfant chez les pingouins. Ce prince dans les états du cuistre, du pauvre, du bête, sous les échanges de la sottise et de la vanité, pas un acte qui ne lui semblât idiot, pas un objet qui fût délice, seulement parfois la mer, M.E.R. La science, présentée par eux, un catalogue de courbatures. Vient Louis et l'art, fuite possible, et l'esprit s'en va d'abord à l'extrême contraire de ce qu'il a haï. Depuis 20 ans, l'on présente à sa consommation le plus médiocre d'entre les univers possibles. Il y a répondu par l'ataraxie, que l'on étiquette « paresse » à son dos. Aucune des actions proposées à l'activité d'un jeune homme bourgeois n'étant belle, et l'infini des actes dignes de soi inaperçus par cette nuit, c'est cela qui fut le dommage irrémissible. 2 points. Se jeter vers les constructions imaginées. Mais ceci sans avoir touché au monde encore. Et voici le premier départ vers un ailleurs où seulement l'aventure invisible, inspatiale, le va. Du même temps, l'appel du monde par l'inconnu, I majuscule et UE à la fin. L'appel du monde par l'inconnu est reçu dans un délire de souhait et d'orgueil qui défait d'avance sa réalité. Car, de ce présent à l'état d'esquisse, peindre pour soi avec toutes les couleurs d'un passé du XVIe siècle, le pays de la Loire et du consentement. Si beau que sans l'avoir, plus moyen de vivre. La jeune humaine, motif en grisaille de cet éblouissement, ne paraît chaque fois que pour en rendre plus certain l'absolu et l'impossibilité. Le drame pour soi dure, dure. Enfin, l'arrachement de points. J'ai vu où tu pouvais me mener. Système des images vivantes, ta stupidité ne se pliera jamais à l'esprit, ou ma faiblesse à tes manœuvres, à tes manières, à tes moyens. Donc, je te refuse, je ne puis te nier, mais je te refuse. Attitude étrange, unique tour d'une force séparée, n'habiller le monde que par l'image de son image, jouer avec elle, la défaire et la construire, y trouver quelle volupté sans espoir, avoir un corps pourtant. Mais ceci est une d'entre les images vivantes dont il est posé qu'elle ne vous concerne pas, ou plutôt qu'on ne l'habite pas. Laissez donc de ce corps l'animalis intelligentsia conduire à des nourritures, à des rencontres. Ni celle-ci, ni celle-ci n'obtiendront de l'habitant intérieur un ad sum qu'il a refusé pour toujours. Refus passionné d'abord, et puis habitude, et puis fatigue, peut-être. Là, une tristesse absolue. Aussi, la certitude d'être à l'abri. Fait qui permet un certain jeu, malgré tout. Et le voici qui jongle, devant le miroir discours, avec des rayons venus des choses qu'il ne touchera pas. Les obstacles les plus différents s'élèvent autour de lui, les compagnies inattendues. Il les tolère. Il lui vient ce milieu, ses environs, cette famille. Il lui vient cette situation. Un matin, il se trouve rouage d'un devoir qu'il n'a jamais regardé. Ce n'est qu'une gêne de plus. Mais, depuis l'aube, l'univers est gêne. Le voici sur lui comme un harnais, pendant qu'il pense à autre chose. Et comme il n'en secoue, n'en casse rien, il commence de passer pour un citoyen modèle. Qu'aime-t-il? Leonardo est absent, au sujet comme à l'objet. Il n'aime celui-ci pas plus qu'il n'agit celui-là. C'est qu'il ne peut agir, aimer, être présent que par un consentement total de son esprit, lequel refuse le monde comme médiocre, laid ou imbécile, et les êtres parce que s'ils ne sont ces trois choses, ils sont trop différents et pas du même lieu mental. Et puis, la même défiance d'aimer comme d'agir. Mais il est vêtu d'une immense douceur qui, si l'on savait, mais l'on ne sait pas, n'est qu'indifférence et fatigue. Insulaire de l'idée land, L-A-N-D, il est le plus subtil. Cavalier despote du mot, le plus apte à écrire, à parler. Ignorant volontaire de tout effort spatial, le plus détaché, le moins redoutable. Et des amis s'ajoutent aux environs qu'il parcourt, ne voyant que soi. Mardi soir, février 1921, 10 heures environ vers les mêmes journées. Lettre, écrite par Catherine Pozzi. J'ai cacheté ces papiers épars, fermé à clé des choses, remué un tiroir où sur des feuilles de rose dorment mes plus beaux jours. Un mouchoir plein de sang parfumé comme si tous les ciels, toutes les branches, toutes les fleurs de l'automne avaient laissé cette pourpre-là. Je m'en vais demain matin pour seulement une semaine, mais je sais bien que c'est de ce train que commence mon plus long voyage. Mon amour, sur un journal écrit pendant le mois de juillet-août, quand je ne vous connaissais que si peu encore, en Auvergne, au Plaza, il y avait ces mots qui terminaient les feuilles que je vous ai données. C'est donc par vos mains le don royal. C'est donc par vos mains le don royal, mon amour. Mon corps de détresse, mon esprit de clarté, je vous dis bonsoir avant que de dormir. Que deviendrez-vous sans moi, mon enfant fraternel? Dieu veuille qu'il y ait demain une lettre de vous, moins aride que celle de samedi. Vous accepteriez de me quitter, toi, dès tout de suite, sur la crainte seule que je ne vous demeure pas plus tard. Encore n'avais-je que mis en doute mon corps, jamais moi-même, dans cette lettre à quoi vous m'avez ainsi répondu. Vous me laisseriez supporter au loin ces jours que je tiens de toi. Vous voudriez bien ignorer mon mal ou mon courage. Et si votre fils est vivant? J'ai une peur misérable que vous ne soyez pas vraiment ainsi. Les autres ne seraient rien près du mal plus grand que tu n'es, telle âme. Mais je ne veux pas que tu l'aies. Bonsoir au mystérieux bonheur que je ne comprends pas. Baissez contre mon cou cette tête fatiguée et dites-moi si bas qu'il faut que je le devine que vous êtes vraiment la moitié de mon cœur, non pas seulement tout mon cerveau, mais cette alliance qui ne connaît pas le trouble, ce tendre mouvement du même sang, et que je crois, que je suis mieux que votre soif, votre bien, cela dont on ne se distrait pas, dont on ne se venge pas en le laissant à ses hasards, cela auquel on se doit comme à soi-même, quoi qu'il advienne. Quoi qu'il advienne, mon chéri. 17 février 1921, Montpellier, vers les mêmes jours. Il a donc fallu partir il y a 8 jours, afin que maman ne sache pas qu'en ce moment, je ne suis point comme toutes les femmes. J'ai erré de Toulon à Cannes dans des trains pleins de gens. Les deux jonquières m'ont accueilli avec une grâce réconfortante à Toulon, le soir sur le port. À Cannes, violente, et ses piaffements dans tous les ornements de cosmos. Les bluffs pétaient comme silex sous le sabot des Amazones. Elle m'ouvrait ses bras. Je lui aurais tout dit, tout, et n'être plus seule pour ce départ terrible. Vers le continent de vie que je ne soupçonne pas. Mais elle mentait, je n'ai rien dit. Je revois un Montpellier ennuyeux et semblable, pourtant différent. Une lettre de lui est là, tendresse absolue. Ma tendresse, sans courage, qui ne m'aiderait pas. J'ai mal à la tête, je ne vais plus penser, il m'envoie les lignes, les prières écrites la nuit, prières vers soi-même et moi-même, celles qu'il faut bien que Dieu entende, que Dieu aime, s'il est. Et puis j'apprends que dans les mêmes jours, vous paraissiez dîner chez cette votre amie que même le méprisable Paris méprise. Ainsi ces lettres qui sont là, que vous écriviez d'une main fiévreuse la semaine passée, qui me crie que je possède le seul rêve que j'ai voulu rêver, n'étaient séparés que par l'espace de plusieurs heures des conversations où mon rêve même ne se supporte qu'avec ennui. Ici, l'essentiel de mon esprit. Là, bord contre bord, sa caricature. Mon chéri, que vos jours conservent les jouets qui sont leur douceur. Les miens, durement séparés, tendus sur un métier si fier, n'exigent plus rien de personne. J'ai été réinventée chez Roux une chemise bleue. Elle est de ce bleu, vous savez, que vous dites si molle, si chère, et d'une soie très douce. C'est une chemise de nuit pour dans quelque temps, et au bord elle devient rose, rose sans frais, S-A-N-G. Le ciel et la vie, ce n'est pas une chemise de nuit, c'est une métaphore. Lundi matin, 21 février 1921, plus 4 jours. Je crois que j'ai choisi ce matin en m'éveillant cette formule plutôt risible mais qui est juste. Il faut que je le sauve ou que je l'élimine. Si jamais vous lisez cette histoire, c'est possible après tout, je vous dois qu'elle soit intelligible. Mon dilemme expliqué. Le sauve de quoi ? Du navrant désordre où il existe et qui fait entre lui et l'univers ce divorce inhumain. Voilà 6 mois qu'en mêlant nos vies, j'ai gagné son malheur. Je ne refuserai pas de partager si c'était un malheur utile, mon amour. Mais un malheur, dont le vrai nom est gâchage, je n'en veux pas. Quelle peine n'ai-je pas eue à me construire une solitude ? Non la Thébaïde du sot vaniteux, prompt que vous êtes à traiter l'ermite d'imbécile, mais l'espace de temps quotidien où l'on n'entre pas. Il y a fallu tout autre chose que 30 000 francs de rente, et dans cette solitude une règle, et motif de cette règle un but, le but même que vous avez eu il y a 6 ans, essayant de mettre le cosmos en système. Votre but, comme vous l'avez abandonné, je ne vous connaissais pas alors que vous tendiez au même point du ciel. Mais un essai que vous aviez écrit dans ce temps m'a rejointe, m'a conquise, note. Catherine Pozzi ne peut évoquer ici que notes et digressions. Ce texte figure dans l'édition en plaquette de Gallimard de 1919, avant l'introduction à la méthode de Léonard de Vinci, dont l'édition originale remonte à 1895, dans la Nouvelle Revue. Un essai que vous aviez écrit dans ce temps m'a rejointe, m'a conquise. Hélas, c'était un anachronisme. Je ne le savais pas. J'ai donc fait alliance avec vous, et comme je l'avais toujours promis, à ma vie, car le corps et l'âme sont une seule chose. Vous m'apportiez ceci, une vie coincée dans un parc à moutons, la chambre commune où dorment 3 sommeils dans le relent des fatigues, l'appartement trop exigu où s'agite la famille mêlée, pas un coin à vous, pas un instant défendu contre le bruit ou l'interruption négligente. À côté, quotidien, le salon jaune déjà nommé, ou l'inquiétante... Oula ! Oh ben, c'est rien, c'est un truc à sauter. C'est rien. Le salon jaune déjà nommé, ou l'inquiétante... La trop louangeuse amitié d'un buste de cire qui s'achève horriblement sous des soies, S-O-I-E-S. Extraordinaire copie de la forme spirituelle qui est souriante et monstrueuse. De votre maison à ce salon, tous vos jours. Ici, vous désappreniez l'ordre et la rigueur du corps. L'honneur de tous les jours à la chair, C-H-A-I-R, dont on a soin. Là, vous désappreniez la sincérité, le goût de la rigueur sentimentale, l'honneur de l'âme qui est ce qu'elle est. Vous n'avez pas eu le suffisant d'énergie qu'il faudrait à changer les modes d'être de ceux qui dépendent de vous, et même la menace de me perdre, près de 10 fois réalisée, n'a su vous faire renoncer au musée Tussaud, note, le salon de Madame Mulfeld, au musée Tussaud de Psyché, dont l'encens est plus fort que l'opium. Mais moi, j'en ai assez. Je ne puis, ô Léonard, supporter une double peine, trop injuste, trop usante peine. D'abord, celle que me donnent vos plaintes, lettres et larmes, qui me font vivre ce moi-même que vous êtes, martyrisé par le désordre et le bruit, exténué, les nerfs fous, volant 2 heures de travail calme, alors que son bétail dort. Qu'il dorme, hélas. Et puis la peine, au moment que je reçois les plus simples, les plus profondes paroles qu'un esprit ait jamais dites à son propre cœur, la peine d'apprendre qu'une heure après, vous habitez au genou de cette vanité tordue. Note, Madame Mulfed. Je ne me suis pas mariée à vous pour que ceci et ceci muse, me gâche, me désespère, me rende à l'égoïsme et au dégoût. Lundi 28 février 1921 plus 7 jours. Je ne puis pas croire que votre enfant doive naître en juillet. Je suis mince, mince, je ne sens rien. Je sais bien que c'était ainsi déjà quand Claude est né. Vous savez pourquoi j'ai consenti? Je vous ai aimé au-delà de toutes les vies. Leonardo mio. Je ne puis refuser la vie que vous accomplirez en moi. Même soir. 2 jours sans lettre. Je pense que je ne vous sens plus. Devine pas qu'à votre place brûlante, il y a l'espace, nul. Je n'ai pas oublié que j'ai eu l'absolu en partage. Dimanche 13 mars 1921, 3 heures, plus 15 jours. Je vais partir après-demain, il faudrait faire le bilan. Je m'en vais vers un appartement de Paris arrangé par ma mère, où je devine que je reconnaîtrai mal l'inquiète qui doit l'habiter, l'anxieuse que l'on appelle au téléphone, qui se défend d'un rendez-vous où elle sait qu'il vaudrait mieux ne pas aller vous voir, Leonardo mio, plus amer, plus las, plus dénué, plus instable, moins guéri de votre mauvais vivre. Mon corps est semblable en apparence à ce qu'il était en octobre. Quand il a fallu pourtant imaginer cette chose, j'ai fait comme autrefois avant chaque terreur. Les premières maladies, l'opération, note. Catherine Pozzi a été opérée de l'appendicite en 1899, ce qui lui avait donné l'occasion de faire des adieux solennels à sa mère et ses frères et d'élaborer son premier testament à 17 ans. Comme autrefois, avant chaque terreur, les premières maladies, l'opération, comme quand mon père m'eut chassé de chez lui pour lui avoir témoigné que « je ne prenais pas son parti », note. En 1905, Catherine Pozzi, qui avait 22 ans, s'opposa violemment à son père au sujet de sa conduite morale et conjugale. À ce propos, elle écrivit dans son journal du 30 avril 1905, guillemets, « Ton père t'a maudite l'autre jour, Cathy, après t'avoir assommé de coups parce que tu lui avais laissé voir une seconde que tu ne l'estimais pas. » Cette crise détermina le premier de ses voyages en Angleterre à Brighton, où elle se rendit seule, sans chaperon ni famille, l'été de cette même année. Reprise, comme quand mon père m'eut chassé de chez lui pour lui avoir témoigné que « je ne prenais pas son parti ». Hélas, fallait-il choisir. Comme quand un laboratoire m'annonça que j'étais phtisique et l'ai regardé d'un œil clair. Regardez cette chose. Si j'avais pu, si je le pouvais encore, je refuserais le combat. Mais toute chose étant forcée, une espèce de sentiment d'économie humaine de sauver ce qui peut être sauvé, de continuer à agir, la part du feu étant faite, me dirige, sans permettre que la force présente se gâche en cri. Ad sum. Je suis présente. Et puis il y a dans ce drame où sans doute je reste une beauté étrange qui me commande et vraiment me fascine, une cruauté supérieure. D'abord la question me fut posée par lui, de savoir si j'acceptais, si je ne... Cela a été résolu assez vite en moi, bien avant que je ne dise oui. En tout cas, ce n'est pas pour aussi tôt que nous pensions. Le temps se dessine ainsi. Ou bien ce sera entre août et fin septembre, ou bien ce ne sera pas. Je ne suis qu'anémique et pas changé autrement. Premier cas. Disparaître début juin. Un été terrible. Il y a Claude avec moi. Où aller? La Bourboule, si je puis. Ensuite, confier Claude à maman. Être dès fin juin à l'étranger. Et puis, la nuit. Mon père m'a dit en 1917, guillemets, « Tu ne peux pas avoir d'autres enfants sans mourir. Dans un pareil cas, je t'opérerai. » J'accepte cette mort. J'ai pensé déjà qu'il n'y avait que deux morts, non monstrueuses. Celle de qui donne sa vie, celle de qui donne la vie. Si je ne meurs pas, le déshonneur, là où la princesse X existe, entourée de suffrages et l'air si modeste et hautain, couchant avec un monsieur que son mari tolère, parce qu'elle-même a choisi de sa main calme une maîtresse au mari, reprise, là où la princesse X existe, entourée de suffrages et l'air si modeste et hautain, couchant avec un monsieur que son mari tolère, parce qu'elle-même a choisi de sa main calme une maîtresse au mari, et l'air si modeste et hautain, où toutes ces dames, mes amies, entre les barreaux réguliers de fonctions mondaines, ont une porte qui va vers un petit plaisir, tandis que mon mari décemment épouse la jolie fille qui fut avant la guerre dernière à me faire pleurer, note. Édouard Bourdet a épousé en 1921 Denise Raymond, qu'il connaissait depuis 1914. Fille du professeur Maurice Raymond, elle fut comtesse de Saint-Léger par son premier mariage. Toute sa vie, elle resta la très fidèle amie de Paul Morand. Reprise. Tandis que mon mari décemment épouse la jolie fille qui fut avant la guerre dernière à me faire pleurer, Karine, Oni, chassée, qui vous verra encore? Qui saura encore votre nom, Sally, vous, dont l'amour sera fait cher, C-H-A-I-R. Eh bien, je travaillerai. L'horreur, le mépris et la détresse, portée seule, vécue seule, seront peut-être assez pour me sauver de mon pauvre amant. Ils m'auront été rançon. Je serai libre. Deuxième cas. Là, même fin à obtenir, il faut que je sorte d'ici. Oh God, que ce soit possible, un avenir ordonné, sage, dur et beau, en compagnie seulement de Claude, qui ne me fait pas mal, qui rit, qui chante, qui m'admire, qui m'apporte les premières violettes. Et il ne te resterait de l'amour qu'une bonté pour ceux qui se trompent. Paris, 21 mars 1921, plus 8 jours. Pendant ces 2 mois de Montpellier, j'ai souvent revu le magistère. Jamais vivant ne diffère plus que lui et lui. Le magistère est venu presque tous les jours. Je ne me souviens plus de nos premières conversations quand il m'a retrouvée. En novembre, il s'était passé que je lui avais tout dit. Tout à cet homme qui aurait dû m'épouser, qui m'avait attendu 2 ans, dont je demeurais la seule pensée, tout dit, comme un enfant misérable auprès de la seule protection. Il répondait seulement « Je ne vous manquerai jamais ». Non, pas un reproche, pas un « Vous, qui, vous, à qui, moi, dont ?» Dieu que j'étais folle ce novembre passé. Couru 8 jours dans les rues pour ne pas penser, pleurer devant le magistère et repartir enfin pour Paris, ivre de reprendre mon amour. À présent, il n'y avait plus rien à lui apprendre. Au magistère, il savait. Mais quelle tentation! Pour une pensée amèrement anxieuse de soi et d'un autre, d'entendre. C'est mal de lui parler de ces choses s'il m'aime, mais c'est un tel bien cependant d'en parler. Et puis, qui sait, s'il ne préfère pas encore cette confiance unique et monstrueuse à l'absence, au secret, au départ. Oui, certainement, il la préfère. Il écoute. Il dit qu'il la préfère. Cette bonté, cette grave bonté. Quand je serai morte, comme je sais bien que vous ne me quitterez pas, vous avez trouvé pour moi un autre usage que d'être votre impossible volupté. Vous avez fait de moi votre plus grand courage. L'exigence d'une sainteté absolue, cela qui vous oblige à l'héroïsme moral. Vous m'avez dit cette phrase étonnante. Ce que j'acquiers par vous à présent vaut mieux que le bonheur que j'espérais. Je ne changerai pas. Ainsi, aux deux pôles de ma vie, il y a ces deux esprits qui m'attendent. L'un tourné vers une science étrange, cherche à forcer les raisons des dieux par le seul regard, passif et lâche quant aux accidents du vivre, amorphe au bien comme il l'est au mal, prince là-haut, mais ici placé parmi les incohérents, les infidèles, les inconstants, les instables, les pauvres au sein S-E-I-N, les pauvres au sein doré. L'autre, sans invention profonde, sans discernement des valeurs de l'idée, intelligent comme on l'est à l'école, tend inlassablement à se faire plus dur, plus net, plus assuré, meilleur, en fonction de la vie. Le premier est tout mon esprit, le second ressemble à la bonté que je souhaite. Verse le premier dans le second, mon coco de soie, S-O-I-E. Mon coco de soie, et va te coucher. 22 mars 1921, 5h, Paris, le lendemain. Hier, il est arrivé une chose étonnante. Je venais de me coucher, la gorge me faisait mal. J'avais envie de tousser, je me suis levée, et comme je toussais, un flot de sang est venu. Rien n'a été plus soudain, plus propre. Ce n'était pas une matière laide à voir, à subir, comme certains autrefois. C'était du sang écarlate, fluide, sans défaut, le très beau, très noble, la liqueur de vie venant, tout aéré d'oxygène du poumon. Idiote, stupéfaite, je regardais, puis j'ai compris. Je me suis recouchée, je n'ai pas besoin de marcher pour trouver mon terme à quelques pas. Je me suis rendormie presque tout de suite, sachant cela. Je suis donc phtisique de nouveau. Tout est un peu différent de ce que j'avais accepté, mais la fin est la même. D'ailleurs, jamais autrefois, au temps d'il y a 4 ans, quand je me croyais perdue, jamais je n'ai eu d'hémoptysie. C'est la première fois. C'est assez effrayant, si, portant les pensées que je porte, l'on pouvait s'effrayer. Évidemment, il en est ainsi. Mon corps cède sous la promesse trop exigeante pour lui. Si j'avais su cela, j'aurais peut-être agi autrement, consenti à voir un médecin afin qu'il intervienne, comme ils disent. Je vais mourir à cause de mon orgueil, pour avoir voulu quand même donner la vie et payer. Je croyais ne sacrifier que la mienne, n'être malade, n'être perdu qu'après. Le pauvre petit. Leonardo mio, je suis à Paris depuis une semaine, et il n'y a pas un mot sur l'instant où je vous ai revu. Je vous ai retrouvé dehors parmi des gens passants, puisque nous n'avons plus un lieu à nous. Ce que vous m'êtes, je ne le saurai qu'après vous avoir perdu. Tous ces mots durs, sans amour, que j'écris de vous, mon amour, que j'écris sur vous, mon amour, saurez-vous, lirez-vous un jour que, souffrant du profond de l'esprit par vous, ainsi que tout ici l'explique, je n'ai jamais ressenti qu'il me serait possible de vous quitter. 1921, plus 2 jours, jeudi saint le soir. Je ne me sentais pas assez bien pour sortir. Il est venu me voir ici, apportant de quoi travailler. Les cahiers que j'ai déjà ordonnés par matière de pensée. Cela m'a pris du temps à Montpellier, mais enfin, le pêle-mêle d'œuvres possibles se sépare. L'on pourrait bientôt y choisir celle-ci et celle-ci. Nous avons passé 2 heures sur le cahier 16, un de mes préférés. Vendredi saint, le lendemain, 25 mars 1921, 5 heures. Je reviens du bois. Il m'y attendait au PC, note, précatelan. Nous avons passé 2 heures ensemble dans le commencement du printemps. Je suis fatiguée, mon corps cède comme il y a 2 ans. Et au début de l'hiver, j'étais guérie. Je savais de nouveau marcher sans fatigue, aller, voir, parler, penser sans fatigue. Hier ou avant-hier, il disait « Je suis votre assassin. Heureusement, je ne semble pas malade. » Et ne le dirai pas. Et serai libre des objurgations, obligations, précautions, jusqu'à ce qu'enfin, peut-être, le flot écarlate encore, et que l'âme éreintée s'embarque dessus pour le pays où l'on ne meurt pas. Je ne suis pas trop laide, heureusement. Il m'a prié doucement 2 fois et je disais « Non !» Pourquoi ? Je ne veux plus être sa maîtresse, cela est vrai. Je ne le voulais plus avant d'être redevenue la fragile non faite pour la vie. Je ne le voulais plus alors que le corps, simplement, était prêt à courir, danser il y a quelques semaines. Je ne dirais même pas « voulais plus », je ne le pouvais plus, peu plus. Dans votre cahier, des sommes, il y a la théorie des 3 états. Âme plus corps, esprit plus corps, âme plus esprit. Et moi, je n'ai jamais envisagé que je pourrais me donner autrement de ces membres faits d'âme que de tout l'esprit. C'est ainsi que vous avez eu la plus parfaite des maîtresses, un peu plus d'un mois durant. Et nous ne savions même plus séparer l'instant qui était caresse de celui qui était pensée. Mais cela, vous comprenez bien, des sommes, c'était le miracle total. Pour subsister, il fallait qu'il n'y ait pas une différence, pas, je veux dire, un instant qui soit réservé, défendu, un instant qui ne consentit point, qui oscilla au rythme antagoniste d'un autre espoir, comprenez-vous ? Vous ne voudrez pas comprendre. C'est pourtant essentiellement ce que vous pouvez comprendre. Des sommes. Le jour où quelque instant de moi ne vous a plus considéré comme son acte. Le jour où je n'ai plus cru en vous. Où je ne vous ai plus admiré, mon chéri, mon amour. C'était, voyez-vous bien, profondément un don qui devenait impossible. Le jour où je n'ai plus espéré en vous. Je vous aime encore, et je ne vous aime pas. Ma tendresse est pareille, mon chéri, et ma vie n'a pas cessé d'être rivée à vous, mais la volupté, l'on ne peut pas y aller autrement que d'une âme entière. L'esprit perdu dans l'autre esprit et la foi totale de l'apaisante étreinte sans un regret, sans un retour. Comment me donnerais-je à vous des sommes? Que m'avez-vous donné? Votre soif, votre douceur, vos idées. Vous avez bien voulu respirer quelques roses avec moi, mais, mon chéri, je ne suis pas une dilettante. Je ne sais pas ne pas aller au bout de tout, et les roses, dans une tête pareille, conduisent certainement à d'autres aventures que leur parfum. Je pouvais avoir tort en vous demandant de changer un peu votre vie. Mais peut-être que je changeais assez de choses dans la mienne, Leonardo, pour avoir le droit de demander. Aux heures les plus misérables que j'ai connues, moi que tant d'heures n'ont pas encore tué, aux heures les plus misérables donc que j'ai connues le mois passé, vous dîniez chez la princesse Suzzo, note. La princesse Suzzo, morte en 1975, née Hélène Crisovelloni, était divorcée et tint pendant la guerre salon à l'hôtel Ritz. Après, elle s'installa somptueusement avenue Charles Floquet, son salon que Proust fréquenta assidûment car il était très ami avec elle, accueillit aussi le diplomate et écrivain Paul Morand, mort en 1976, avec lequel elle se remariera en 1927. Reprise. Vous dîniez chez la princesse Suzzo en grand tralala. Elle acceptait très bien que vous soyez un numéro 5 à son quadrige. Vous le savez, je le sais. Ces gens n'ont ni culture vraie, ni bonté, ni esprit, ni goût, mais le semblant de quelques-unes de ces choses. Ils vous mettent mon diamant sur leur table, et ce qui me fut la présence même de Dieu rehausse leur grotesque plaisir. Vous m'écriviez quotidiennement. Mais la tendresse ou l'anxiété de vos lettres n'empêchait pas ces plaisantes agapes que vous me cachiez avec soin. Je suis revenue. Faut-il recommencer la pauvre lutte entre mon amour et votre facilité? Non, non, de Soum. Restez-moi la compagnie bien-aimée. N'éveillez pas, n'appelez pas en me prenant l'âme entière qui n'aime pas mentir, ni qu'on lui mente, qui ne comprend pas que son amour se prête aux moins estimables amitiés, l'âme qui trouve naturel de gâcher une vie pour votre joie, mais demanderait que vous renonciez à quelques moments les moins beaux en échange. Et puis, que de papier noirci. Samedi Saint, 26 mars 1921, le lendemain. Ce soir, il est 7h05, comme je vous écrirai ma confiance. Si je ne savais que vous êtes en cette minute au pied de votre ami, I.E. Au pied, comme un homme honnête du XVIIIe siècle, je sais bien, et disant des riens ou des méchancetés, assis là. Elle vous a dit l'autre jour, guillemets, « On dit que nous couchons ensemble. » Savez-vous ce que cela veut dire quand une femme dit ceci à un homme qui ne lui fait pas la cour? Saurez-vous jamais la honte intolérable que vous m'avez donnée? Que tout Paris puisse dire cela et sembler avoir raison. Bonsoir, Leonardo. Quelle adoration vous avez gâchée. Mardi 29 mars 1921. Vous téléphonez ce matin pour me donner rendez-vous au Louvre. Je suis curieuse de vous entendre parler devant ces belles choses. Nous nous promenons dans Paris comme ceux dont l'amour commence et qui n'ont pas de maison. Je ne veux plus de maison, même pas ces pièces propres et convenables que garde Madame Houdet, où l'on peut se retrouver comme deux amis qui ne souhaitent que se voir. Je n'irai pas, même sous le serment que vous ne me demanderez rien. J'ai peur de vos bras, qui tout de suite ont la forme de mon âme. Ainsi, vous pouvez m'asservir et me créer mystérieusement partie de votre chair. Et puis, ce corps nouveau où je suis mêlée s'en va prendre service chez ceux-là. Je pense souvent à une courte réplique de Socrate, note. Cette anecdote à laquelle Catherine Pozzi pense soudain est contemporaine de la rédaction de Palinos ou l'architecte, que Paul Valéry écrit sous la forme d'un dialogue entre Socrate et Phèdre. Je reprends. Je pense soudain à une courte réplique de Socrate à propos de Xanthippe qui m'avait fait bien rire. J'y pense en mettant Madame Mulfeld au neutre. Chute choisie. L'extrême du mépris n'est pas dans les énormes adjectifs. Xanthippe est là et gueule. Socrate dit à Criton, guillemets, « Oh, Criton, emmène cette L, E, 2 L, E, à la maison. fin de guillemets, emmène celle-là. Il ne dit même pas son nom. 5h10. L'été au Louvre, c'était fermé. Il attendait derrière un pilier, il me dit, guillemets, « Vous voyez? Voilà où nous en sommes. » Je réplique que je ne peux rien à ce hasard, guillemets. « Si vous aviez voulu que nous eussions un toit, je ne le voudrais plus jamais. Pourquoi? Vous savez pourquoi, je vous l'ai dit. Alors au revoir. » Et ce visage avec lequel il prononce au revoir est tel que je suis glacée. Jamais je n'ai vu sur des traits humains ce désespoir et cette cruauté. « Non, vous ne pouvez pas me quitter, Leonardo, vous n'en avez pas le droit. Si j'ai eu l'autre jour cette rechute, vous savez que c'est à cause de vous. Quand il m'a semblé que j'allais avoir un enfant de vous, je l'ai accepté, malgré toute l'épouvante. Je serai sans cesse auprès de vous, je vous garderai mon âme et mon esprit, je vous servirai, travaillerai pour vous, mais je ne peux plus partager votre vie. Si je vous abandonne la mienne, partagez avec... » Cela. Le visage de fer dit « Vous ne voulez plus que je la voie ?»« Plus autant. C'est bien. Mais qui vous assurera que je le fais ?»« Je vous croirai, mais ce serait la fin si vous me mentiez. » Il part, je pars. Et je reçois ceci. « Il faut que j'épingle cet invraisemblable témoignage. » Il s'agit de glisser à l'amitié. Comme si tout cela n'était et ne fut que prétexte. Vraiment, vous me faites cet instant horreur. Et pire, ce ne sont pas vos mots, ni l'espèce d'insulte à mon amour qu'il vous plaît d'y inscrire. C'est ce visage effrayant, où il n'y a pas une seconde la pensée de moi, tourné tout entier sur soi, dans le plus vertigineux égoïsme que sans doute jamais je ne verrai. « Leonardo, vous avez accepté ma vie, mon honneur. » Si l'homme avait encore en janvier, note, l'homme est Édouard Bourdet. Si l'homme, qui avait encore en janvier droit sur moi, m'avait fait suivre et surprendre. Vous avez accepté ma vie, mon honneur, ma santé. Vous avez accepté que je risque la honte totale en devenant mère ainsi par vous, et l'atteinte irrémédiable à mes fragiles forces. Mais parce que je vous ai demandé en échange de cesser de vous afficher comme sigisbé de ce monstre devant tout Paris et m'infliger le désespérant partage de l'intimité que j'avais pourtant assez payée, vous osez m'écrire de cette façon. Certes, je ferais mieux de ne pas vous revoir. Amour qui ne savait aimer que l'écho de vos heures, pour qui mon mal a si peu compté. 31 mars 1921, plus deux jours. J'ai été chez Femina, je l'ai trouvée seule. Elle a été très bonne, comme autrefois. Je lui ai dit beaucoup de choses que j'étais sûre qu'elle verrait comme moi. Elle les a vues comme moi. Et je suis partie avec la sécurité, au moins, que je n'étais pas insensée. Impossible de dormir cette nuit. J'avais écrit le soir à elle. Leonardo, une lettre. J'étais absolument calme hier, comme je le suis depuis ces deux jours. Voici le troisième. Et il le faut, car c'est une espèce de santé d'esprit que je joue dans cette histoire. Il errait dans Paris à cette minute, m'écrivant en soi-même de subtiles insultes, se considérant soi-même sans fin, avec une tendance désespérée, continuant sans répit l'équivoque derrière laquelle sa gloire est en sûreté, comme ces malheureux ils piétinent dans des « Je t'aime !» qui n'ont pas plus d'être que la berceuse d'un sommeil enfantin faite pour empêcher la pensée. C'est au pays des pauvres amants que vous me conduisez, mais je n'irai pas. Midi. En octobre, pour un désir que vous exprimiez, pour satisfaire à votre souhait que je reste mariée, je télégraphiais au malade d'esprit, au brutal compagnon de mon passé qu'il revienne, que je consentais à le revoir, reprenant pour vous plaire le devoir, qui n'est plus un devoir, et cette horreur dont j'allais être délivrée. Il est revenu, il a failli accepter. Il n'a dépendu que de sa dernière lubie que je me remarie en enfer pour que vous soyez plus content J'allais le faire sans théorie, sans attitude, comme si c'était simple. Mais pour que vous m'accordiez ce que je vous ai demandé misérablement depuis la première heure, il a fallu que je vous ai quitté et que vous mesuriez votre espace de vie solitaire. C'est à l'effroi de cette détresse que vous avez sacrifié quelque chose. Pas à moi. Même jour, 7h30. J'étais encore dans la détestation, dans la révolte de tout ceci, et puis je suis sortie, j'ai été à la campagne, en auto, voir un collège pour Claude. J'étais appuyée, courbée en deux comme un chiffon dans la voiture. Passaient les faubourgs, les villas, les magasins de fabrique, les octrois, les maigres arbres, dansaient les pavés. Quelle lassitude absolue, il n'est pas possible que je survive à ce printemps-ci. Rentrer, changer de robe. Dès ici, l'envie grandit de lui parler, d'entendre sa voix. À peine déshabillée, rhabillée, à peine libre des domestiques, je prends le téléphone, je l'appelle. Je m'assieds derrière ma porte, l'appareil emporté, et simplement c'est nous deux. Comme autrefois. Mieux qu'autrefois. Voix tendre, voix presque heureuse, voix qui me parlait comme ma simple conscience. Tous les faits chassés. Oh mon chéri, que ce soit encore vous et encore, ma fatigue est partie, l'étrange poids, la certitude de mourir, tout ce qui n'a qu'un nom, l'absence. Reviens-moi et que je te revienne, santé chérie de mon amour. 1er avril 1921, le lendemain. Je suis sortie ce matin pour rencontrer Leonardo, je ne tenais pas debout, ayant à peu près perdu le sommeil et complètement l'appétit, et ce poumon bloqué, ce côté douloureux. Tout ça ne se voit pas sur ma figure, ni sur mon chapeau à plumes. Après déjeuner, était chez lui pour la première fois. Sa femme, ses enfants sont hors de Paris. Et j'ai vu la chambre. 2 mètres sur 2, peut-être moins, où ils dorment. J'ai vu le lit, dans lequel il passait des nuits à m'écrire, pendant qu'elle dormait ou feignait de dormir. La table, trop petite pour vos papiers. Le cabinet de toilette, où, depuis 20 ans, l'on a renoncé à se laver, je pense. J'ai vu le lit pliant de la jeune fille, note, la fille de Paul et Janie Valérie Agathe, née en 1906. Bord contre le dossier du vôtre, témoin naïf et toujours ignorant des échanges conjugaux de l'aube profonde. Une bonne hostile entrait brusquement et regardait, ou plutôt ne regardait pas, la jolie dame cachée de fourrure. Vous aviez soudain l'air jeune. J'ai eu brutalement envie de vous, comme cela ne m'était jamais arrivé. Je veux dire de vous, en tant qu'homme au mince visage, aux yeux clairs, toute votre œuvre n'étant pas de cette affaire. Vous ressembliez invraisemblablement à Ilan de C. Note. Ilan de C, dont l'identité n'a pu être établie, fut, de 1903 à 1904, le seul véritable amour de Catherine Pozzi avant son mariage. Elle avait 21 et 22 ans. Reprise. Invraisemblablement à Ilan de C, qui m'avait à 20 ans troublée, que j'avais fui avec un cœur protestant, et des illusions bien drôles sur mon orgueil. Dans une des salles de la collection R, note, Paul Valéry et sa famille vivaient alors au 3e étage de la maison de M. et Mme Ernest Rouard, qui possédait une importante collection de tableaux de la période impressionniste. Ernest Rouard, proche ami de Paul Valéry, avait épousé Julie Manet, fille de Berthe Morisot, et d'Édouard Manet, le frère du peintre. Ce mariage s'était d'ailleurs fait le même jour que celui de Paul Valéry avec Janie Gobillard, nièce de Berthe Morisot. Reprise. Dans une des salles de la collection R, au-dessus de chez vos cousins absents aussi et qui, sans le savoir, me livrent des Manet, des Degas, nous nous sommes embrassés avec violence. Je vous ai permis d'aller voir si Madame Houdet consent à nous donner un flat. En anglais, F-L-A-T. Note de la lectrice, flat, appartement en anglais. Nous sommes redescendus, j'ai fui devant la silhouette entre deux portes de votre mère, note, la mère de Paul Valéry, madame Barthélémy Valéry, née Fanny Grassi, était âgée alors de 90 ans. Reprise de votre mère qui, à demi aveugle, n'a rien deviné de la passante. Cette chambre où il fait clair, où tout est comme cela serait chez le frère du curé, à X au bois, à X sur Loire, seulement en plus de la peinture, des tableaux partout. La ronde lampe, la machine à écrire, le lit de la petite. La forme de votre femme dans l'autre, après. Elle dort du côté du mur. Sur la table, il y avait un carnet. Ce carnet était plein de notes sur moi, écrites évidemment depuis 3 jours, et où ma tendresse était comparée à pas grand-chose, qui n'a su que donner l'extrême du courage et de l'oubli de soi pour que vous existiez. 5 avril 1921 plus 4 jours. Il m'embrassait et me mordait et me regardait. Et pourquoi me faites-vous peur, mon amour? Vous me regardez avec la passion sérieuse que l'on a pour observer au miroir son propre visage. Quel vous regardez-vous ici? Jamais je ne me suis sentie si abolie, inexistante, de par les yeux même fixés sur moi, annexée par eux, pour être changée en source qui désaltère et renvoie au rayon. Cette phrase est vilaine, mais pourquoi me faites-vous peur et pourquoi ai-je froid jusqu'au cœur? 19 avril 1921, plus 15 jours. C'est ceci l'amour. Je n'avais voulu que ceci, jamais. Devant la maison de Dordogne et les géraniums et les dahlias et les roses de Bengale, devant la petite tonnelle de vigne vierge où souriait, tricotait ma grand-mère, qui est morte, et pendant que ma tante, si jolie, qui est morte, jouait avec moi, et puis au milieu des enfants familiers, quand mon père, plus loin, parlait de tout son aimable visage, et les tilleuls remuaient un peu le doux ciel. J'attendais déjà l'amour. Ceci. Est-ce que je suis une inconsciente, une coquette, une égoïste? J'ai découvert un esprit. Je l'ai reconnu pour mon vœu au-dessus de tous les autres. Et vraiment sans regarder, s'il était exprimé par des yeux gris ou bleus, je me suis donné à lui et voilà. Pour cette raison, je ne comprends plus ni la vie, ni mon cœur, ni l'amour même. Et je suis assise sur l'aujourd'hui. Comme un voyageur naufragé, dont tous les biens seraient cependant saufs, mais auquel ni soleil, ni signe céleste ne conseillerait plus rien. À 2 heures, j'étais dans ma chambre devant un livre de physique, et parce qu'il y avait du feu, des cigarettes et un petit azalée de 6 francs rose-pourpre contre le mur bleu, j'ai dit à un passant invisible que j'étais heureuse. Que j'avais joliment de la veine d'aimer la science et la beauté. Mais, à 3 heures, il est venu, et nous n'avions pas causé 5 minutes que la même plainte et le même reproche parce que, dit-il, je le fais passer de l'état éperdu à l'état limité. 26 avril 1921, plus une semaine. J'ai reçu plusieurs lettres de détresse, encore et encore pour la même prière, et parce que je répondais toujours du même nom, un jour il n'a plus écrit, il n'est pas venu. Le lendemain matin, nous nous reprenions les mains comme après un voyage, et je sentais quel trou se creuserait dans ma vie sans toi. Pendant quelques jours, nous essayons de ne pas nous faire de peine. Vous, de ne pas demander, moi, de vous donner une présence si douce que vous ne souffriez plus qu'elle soit incomplète. Mais ce sont toujours les soirs où il erre sous mes fenêtres, et je l'apprends le lendemain matin, et les au revoir déchirants et le reproche de lui avoir repris sa gloire, son secret de puissance. La seule heure sans peine est celle du matin. Que j'aime ces conversations de 10 heures, le bonjour du bout du fil, et vos longues explications sur un point de vue mathématique, et l'annonce du programme de la journée, les farces sur celui d'hier, et la tendresse maîtresse qui ne se peut dire, mon chéri. 1er mai 1921, 2 heures, plus une semaine. Ce matin, seconde hémoptysie. C'est étrange, cette exaltation que me donne la vue de ma mort. Il est déchirant de quitter l'univers que je commence à comprendre, mais je me connais très heureuse, marquée par la joie entre tous, pour avoir vivante dessiné ces délices intelligibles. Depuis des mois, je ne lis plus que des livres de physique, et certainement peu d'écoliers, ni peut-être de maîtres, y trouvent cet étonnement religieux, il faudrait dire musical, si cela ne ressemblait à un artifice littéraire. C'est vraiment dommage que je meure cet été. Même jour, 5 heures, il est venu. Il est déprimé dans un de ses jours aveugles, il dit qu'il s'ennuie, qu'il a assez de tout. Merci Dieu qui me donnait de vouloir tout. Il me trouve allongé, je finis par lui dire le sang. Cela ne le trouble guère, il dit qu'il connaît un vieux monsieur qui est mort à 60 ans et avait des hémoptysies depuis des années. Il dit que ce qu'il me faut, c'est l'amour. J'aime mieux ne pas écrire ceci plus loin. Je ne serai donc jamais une vieille dame. 2 mai 1921, le lendemain. Encore très faible. Il ne me téléphone ce matin qu'à 11h15. Il a pu attendre jusque-là, pour savoir comment j'allais. Cela, c'est la pensée amère. Je dis que je vais très bien et lui demande de renvoyer mes lettres pour mettre de l'ordre. Il les renvoie à 3 heures. Je suis si faible que je ne peux les relire. Je les regarde. Je lis une page ou deux seulement. Cela semble déclamatoire. Je cachette. Il retrouvera cela quand je serai morte, bientôt. Je lui téléphone qu'il peut venir à 6h30. Le matin, dans le téléphone, moi, si mal, à peine je parlais, il parlait de lui, de Gide, de son prochain volume, note. Charme. Ou « Poème » par Paul Valéry, paraîtra aux éditions Gallimard en juin 1922. Et encore, l'étreinte amère de la pensée d'abandon. Tout à l'heure, il entend que je ne vais pas bien et il a un instant de peur. Quand j'ai redemandé ses lettres, c'est presque ce matin, pour que vous n'ayez plus rien de moi, tant je reconnaissais que vous ne m'aimez qu'en vous. Et puis, suis-je dans le vrai? Vous n'êtes pas comme les autres, et malgré tout, je vous mesure avec la logique des autres en faisant cela. Vous êtes hors de tout, étrange à tout. Certes, vous ne m'aimez pas comme d'autres m'ont aimé, mais, dans le petit mot qui accompagnait l'énorme enveloppe, vous écrivez « Je n'ai que toi, et tu n'as que moi. » C'est vrai. Et puis, vous êtes si grand, mon amour, si certainement le plus grand. Je parcours Eupalinos, note. Paul Valéry a achevé la rédaction d'Eupalinos ou l'architecte, écrit en état de ravage, en mars 1921. La NRF du 1er mars 1921 en a d'ailleurs donné des fragments, mais Eupalinos ou l'architecte précédé de l'âme et la danse ne paraîtra en volume qu'en avril 1923 aux éditions Gallimard. Ce livre, dont Catherine Pozzi lit le manuscrit, lui sera dédié. Il porte en exergue l'inscription grecque « Pour Karine ». Reprise. Je parcours Eupalinos et toutes les paroles de ce cahier, voyez-vous, sont devant être effacées par ceci. Je vous remercie de m'avoir aimé. Et E. Aimé et E. Même nuit, 3 heures du matin, 3 mai 1921. Bal dans la maison d'en face. Un tango alterne avec un chimie. J'ai envie de danser, je ne peux pas dormir. Ce jazz est énervant. Cette musique pour impuissant, pour vieillard. Je lis la fin du livre de Femina, note. Il s'agit d'un livre déjà ancien de Femina, Madame Bulteau, signé Jacques Vontade. La lueur sur la cime. Kalman-Lévy, 1905, écrit en 1903 pour Bénir l'union d'Anna de Noailles, Jacqueline de Moustier et Maurice Barrès, Étienne Marquen. Étienne Marquen. Reprise, je lis la fin du livre de Fémina, si passionnée. Je me lève, ferme la porte. Hémoptysie, ça va bien. À ce train-là, nous sommes bons. C'est donc comme ça que l'on meurt. Maman arrive demain, elle n'appréhende rien. Si je me faisais emmener à la Grolet avant la fin, pour éviter le corbillard parisien, le drap frangé d'argent, toute la poussiéreuse gloriole d'horreur, on n'aurait qu'à m'emporter dans une boîte de noyer, pas noir, hein, avec 4 hommes de la ferme, et pendant qu'on me creuserait un caveau large, à cône, large, une vraie chambre avec des marches pas fermées, je pourrais bien attendre 1 mois ou 2 dans la petite église. Ce serait toujours ça de prix. Fémina, ne donnez pas ce livre à mon bien-aimé. Note. Catherine Pozzi avait fait de Madame Bulteau son exécuteur testamentaire. Arrachez les méchantes pages. Que de fois je vous ai écrit des testaments, Fémina. Celui-ci est le bon. Pour tous les cahiers, faites-en ce que vous voudrez. C'est bien trop lâché pour être lu, et je ne tiens pas du tout à l'imprimerie. J'ai vraiment écrit tout pour ne pas être toute seule avec Dieu. Fémina, je vous donne Paul Valéry. Note, le nom de Paul Valéry a été gratté. Il a besoin de vous pour vivre. Aidez, armez-le pour moi, sauvez-le du dégoût de tout. Aidez-le à faire le système, cette science la plus belle qu'on ait rêvée. Obligez-le à espérer. 9 heures du soir. Il y a 1 heure, 3e hémoptysie. Maman est arrivée ce matin avec Claude. Claude a grandi, il est plus parigot que jamais. On sent qu'il s'amuserait contre l'univers entier avec 3 bouts de ficelle. Je n'avais pas l'air de ma nuit. Ce corps est étonnant. Maman n'a rien vu. Elle a crié des ordres tout le jour dans les couloirs. J'étais debout, mais de temps à autre allongée. Il est venu. Il commence à avoir peur. Il pleure. Que Dieu en finisse vite. Ce soir, au moment de dîner, je sens... Je commence à connaître la sensation. Et c'était cela, plus violent qu'avant. Et je me relève, glacée, avec mes doigts qui refroidissent et une seconde de dégoût vivant devant ses mains, ces mêmes mains quand, dans peu de jours, elles seront choses. Et puis je me relève et je marche jusqu'à la salle, et j'avais 3 tranches de filet de bœuf, sans penser, comme on rejette du charbon sur le tas qui baisse. Je bois de l'eau et du rhum, mon souffle passe mieux, je me déshabille. Maman vient et demeure 10 minutes à me dire des choses désagréables, vagues, sur des points précis, parce que je n'ai pas pris une femme de chambre qu'elle protège, ou que je n'ai pas laissé mon fils en Languedoc, entre les mains d'une tante P. Note. Thérèse Posa, près de qui sa mère était venue vivre à Montpellier en 1916-1917. Reprise. Entre les mains d'une tante P. Cette tante P. est un des plus pauvres morceaux d'humain que j'ai connu. Elle est telle que ce qui est beau et vrai dans le monde doit la fuir. Elle me hait, c'est un honneur. Mais il a fallu porter 3 ans sa présence, parce que maman ne pouvait s'en passer. Maman choisit toujours le médiocre et l'obtus, par modestie. De 7 à 8 heures, j'ai refait mon testament. J'ai tâché d'éviter que la tante P ne vienne prier sur ma tombe, car elle a fini par prendre la piété l'an passé, comme on prendrait la gale. J'ai demandé qu'on ne l'invitât pas cet été à la Grolet. Ce n'est pas très gentil, ce n'est pas très méchant. Maman, dans ses voiles, sera bien plus belle à me pleurer si elle renonce 2 mois à qui me fait dégoût. Cette tante détestait mon père, en parlait ignoblement. Et maman a passé le deuil tragique de papa, la tante, à ses côtés. Elle s'en sauvait devant mon étonnement en me disant « Je ne parle pas de lui ». Comme maman insistait tout à l'heure en faveur de la tante, je lui ai répondu pour en finir « C'est une âme vile. Tu ne peux même pas comprendre ce que ce mot veut dire. » Alors elle est sortie en tapant la porte. Et voici ma 3e nuit à passer. Mon Dieu, mon cher Dieu, il y a une chose que je ne comprends pas. Comment me laissez-vous partir avant que de vous avoir trouvé ? Minuit et quart. Ce sang qui me réveille, ce sang qui ne s'arrêtera donc pas. L'extraordinaire indifférence à l'univers. Je ne suis pas bonne. Il y a beaucoup d'orgueil et presque rien qu'orgueil. Un instant je me vois et cet appel vers Dieu même de l'autre page est orgueil. Qui m'éclairera ? Il faut que j'en sois à mourir pour comprendre. Pourtant je n'ai pas peur. Ce qui m'enseigne, c'est que je sens que rien n'a pitié de moi, que je ne change rien, que j'entre ou sorte, et même ma tragique histoire n'est qu'orgueil. Nous n'avons pensé qu'à nous-mêmes. Je n'ai pensé qu'au mal qu'il me faisait, et lui qu'à lui. Mais c'est trop difficile de se comprendre comme si l'on était un autre. Je n'ai pas grand valeur. Il vaut mieux certainement ne pas publier ces papiers. Cela contagionnerait d'autres gens et même, à l'autre page, quand je parle à Dieu, c'est avec l'air que je suis tellement choisie, tellement préférable. Que les humains sont bêtes. Il n'y a pas souvent vraie flamme chez eux. Moi, je ne veux que moi apprendre, apprendre, pour monter. Être plus, vivre plus, posséder, atteindre, l'idéal même. Das idéal avait mon visage. Cela ne saigne plus. Il y a du sang plein le mouchoir et plein à côté. Il faudra tout de même qu'un docteur vienne. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ergotine? Vasoconstricteur? Je ne me sens pas plus faible. Je n'aime pas les drames. J'aurais tant voulu mourir avec simplicité. 5 mai 1921, plus 3 jours. Je me suis endormie enfin. Ce matin, j'ai été vider le sang et on n'a pas vu. J'ai téléphoné au docteur Cazenave, il est venu à 6 heures. Je lui ai fait d'abord donner sa parole d'honneur de ne rien dire. Maman aurait une crise de foi, pleurerait toutes les nuits et tout le monde courrait catastrophiquement autour de moi. À 6h30, Madame Bulteau est venue. Oh, ma lumière, mon consentement! J'étais soudain beaucoup mieux après. Cette nuit, j'ai dormi calme, et à 3 heures après-midi, il est venu. Alors, à présent, il est 5 heures, je suis de nouveau horriblement triste, et j'aime presque autant mourir. Ce jour où je m'expliquerai cette douleur amère que je prends de lui, je saurai tout sur nous-mêmes. Il me délie de toutes mes puissances de vie, c'est incompréhensible. Mon corps me fait mal. 7 mai 1921, plus 2 jours. Je m'étais sentie si bien le jour où je croyais que j'en étais sortie. Même, j'ai travaillé. Peut-être ai-je eu tort de rester assise et d'écrire. J'ai, c'est d'hier que je parle, assisté à la leçon de géométrie de Claude, de 2 à 3. Il est venu à 3 heures, jusqu'à 4h30. Et je lui ai promis que je serai à lui quand je pourrai sortir. J'ai dit cela parce que je sentais une crainte de le perdre si je n'étais plus à lui, et aussi le désir de la grande tendresse. En le disant, je savais que je me promettais ainsi de reprendre la vie cruelle de l'hiver et toutes les peines qui sont écrites dans ce cahier. J'ai changé de robe, j'ai été jolie 1 minute, et puis à 8 heures, très mal dans le bas-ventre, comme pour amener cet autre sang qui ne vient plus depuis octobre. Et brusquement, après dîner, l'hémoptysie encore. Alors, comme on entre dans un tunnel après un grand soleil, voici mon corps d'un coup qui se refroidit. Je m'étends, j'ai si mal dans le ventre que je demande un cataplasme et que je bois 11 gouttes de laudanum, ça se calme. À midi, j'ai soif, je me penche pour boire, et voilà le sang qui reprend. Cette fois, c'est sérieux, j'ai juste le temps de pousser le vase sous le lit, maman entre. Elle m'a entendu, elle ne voit rien. Et je laisse pendre ma main devant la porcelaine blanche qui contient cette flaque rouge, si rouge. Je suis affreusement faible. Le laudanum n'a rien empêché, ni l'ergotine, ni l'eau glacée. 9 mai 1921, plus 2 jours. Lettre du magistère hier matin. Il a reçu le faire-part de mon extinction. J'en aurais fait du battage à la mort depuis 8 ans. Il écrit « Je vis dans l'horreur. Je vous demande de voir un prêtre. » Et m'indique l'abbé Munier, note. L'abbé Munier, mort en 1944, confessait tout le faubourg Saint-Germain et le 16e arrondissement. Sa passion peu raisonnable de la littérature, des écrivains et des bons dîners, alliée à sa modestie, son aménité et ses mots d'esprit, faisait de lui un spectateur curieux et indulgent des cénacles littéraires et des salons les plus aristocratiques de la capitale. Reprise. Il n'y a pas trois poules qui picorent à l'esprit sans que Munier soit au milieu. Sa robe ne se gêne pas de frôler les peaux de ces dames sentant si bon, roses encore de leurs messieurs. Munier fait la table des adultères. Munier parle drôlement et fait 18e chez les amateurs du vivre. On invite Munier dès qu'une princesse papou passe. J'ai répondu au magistère que, si j'étais Dieu, je ne voudrais pas d'un retour pareil. Si je vous ai voulu, mon Dieu, cela vous regarde. Je pense que les larmes de mon enfance, de ma jeunesse vers vous, avaient un autre prix que la prière effarée qu'on me demande. Il est venu. Je sais que je l'aime. Alors tout est simple. Je brûlerai ce cahier sans attendre. Il n'est plus de logique ni de discours. Il est là. Ô Mio, déchirez ces feuilles, mais délaissez tout. Je suis fatiguée d'un moi-même qui vous oppose, et j'ai peur des amis qui vous entraînent. Avant que je ne finisse mon tout au monde, qu'il nous soit donné de perdre tout, l'un pour l'autre. 12 mai 1921, plus deux jours. De vous à moi, il passe une coïncidence autrement grave que l'étreinte, autrement extrême, et cela ferait sourire que croire seulement au mouvement dont s'enferment les bras. Il y a bien plus longtemps que cela que je suis votre maîtresse, du premier jour sans doute où je vous ai lu. Mais nous sommes ensemble, parfois l'un parle, et l'autre, anxieusement, s'applique à son esprit. Nous nous promenons dans l'univers, et l'un donne à l'autre ses yeux, et l'autre à l'un son impatience. Vous trouvez une question à demander aux choses, et je la finis, et nous la répétons en plus, juste formule. Puis chacun allume sa lumière. Il fait deux fois plus clair, et l'âme double se renvoie, sans s'en pouvoir lasser, le mirage d'étonnement et d'invention, qui deviendra peut-être merveille. Courses pensives à deux, recueillement, confiance, un mot force un souvenir et permet d'apporter quelques heures passées à regarder. C'est la joie du partage, au-delà même d'aujourd'hui. Des images et des malheurs, une telle extrémité d'abandon que l'explication abstraite se tait, court et devient tendresse. 14 mai 1921, 9h du soir plus deux jours. Il était là, aujourd'hui, quand on m'a apporté une lettre et un paquet du diplomate. Note. Le diplomate Robert Siegfried, frère d'André Siegfried, qui se suicidera en 1923. Le paquet était un merveilleux parfum. La lettre demandait à me voir. Il a dit « Vous allez lui renvoyer ça !» J'ai répondu que je pouvais obéir, mais que ce serait grossier, que c'était bien plus simple de ne pas le revoir. Cet homme me poursuit depuis 6 ans. Il a dit qu'il était jaloux, mais qu'il ne se reconnaissait aucun droit sur moi. Cela m'a beaucoup blessée, qu'il ne se reconnaisse aucun droit. C'était mettre l'amour sous le signe de la fantaisie. Merci pour le sourire et merci pour le baiser. Nous ne nous sommes engagés à rien. Alors, et méchante contre moi-même, je lui ai parlé de sa femme. Il m'a longuement raconté comment elle avait été 5 ans malade. Note. Jeannie Valérie fut avant-guerre très longuement souffrante des suites d'un accouchement difficile. Reprise. 5 ans malade. Comment il l'avait soignée, sauvée, comment le jour où les médecins lui annonçaient qu'elle était perdue, il s'évanouissait d'angoisse. Quand il est parti, j'ai compris que j'étais seule au monde. Alors j'ai fait téléphoner au diplomate qu'il pouvait venir. Il était là une demi-heure après. Il m'a dit que si j'étais sa maîtresse, il se ferait nommer dans la ville que je choisirais. J'aime mieux Dieu que tous ces hommes. Combien cela fait-il d'années, mon Dieu, que je vous cherche et manque dans l'amour? Édouard Bourdet, pour qui je voulais disparaître. André, qui m'a blessé à mourir. Le magistère, que je n'ai pu aimer. Et celui-ci. Je suis usée jusqu'à la corde. Il ne reste de moi que ce pas qui danse et ses yeux désespérés.